RFI, il est 15h à Paris, 17h à Damas.
Juliette Pietraszewski.
En Syrie, la France a frappé des positions du groupe État islamique. Annonce du ministre français des Armées qui est actuellement au Liban. On reviendra sur cette déclaration dans un instant. En Corée du Sud, deuil et question après le crash de l'avion à l'aéroport de Muan ce dimanche. L'appareil qui a percuté un mur de béton en bout de piste. Les autorités ont annoncé examiner la réglementation de ce mur. En Argentine, le président Javier Milei reprend encore le budget de 2023 pour 2025. Annonce qui intervient à l'heure où Buenos Aires traverse une période d'austérité budgétaire. Et puis en France, fermeture de la pêche dans le golfe de Gascogne pour protéger les dauphins. C'est une déclaration qui a retenu l'attention. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, est en visite au Liban depuis lundi. Il a affirmé que la France avait frappé des positions du groupe État islamique en Syrie. Une frappe qui s'inscrit dans le cadre de la coalition anti-djihadiste internationale dirigée par les États-Unis. C'est la première opération de ce type menée par les forces françaises depuis la chute de Bachar el-Assad le 8 décembre dernier. On en parle avec Paul Khalife.
Dans un post publié sur le réseau X, Sébastien Lecornu affirme que des avions de chasse Rafale et des drones Reaper ont largué dimanche 7 bombes sur 2 objectifs militaires du groupe État islamique dans le centre de la Syrie. Le ministre ajoute que les armées françaises restent engagées dans la lutte contre le terrorisme au Levant. Dans le sillage de la chute du régime syrien le 8 décembre, l'aviation américaine avait mené des dizaines de raids contre des cibles du groupe État islamique dans le désert central pour empêcher l'organisation extrémiste de tirer profit des récents développements. À la mi-décembre, les États-Unis ont annoncé qu'ils avaient doublé le nombre de leurs effectifs militaires en Syrie, les portant à environ 2000 personnes. Les opérations militaires françaises et américaines contre l'EI témoignent des inquiétudes occidentales d'une éventuelle résurgence du groupe radical. L'organisation djihadiste reste fortement implantée dans la vaste région désertique du centre de la Syrie, malgré les tentatives de l'ancien régime syrien et de son allié russe de l'éradiquer. Des sources concordantes affirment que l'EI dispose de plusieurs milliers de combattants et de moyens militaires importants disséminés dans des bases reculées dans le désert. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
En Syrie, toujours, le chef militaire du groupe HTS, Ayad Tahrir al-Sham, a été nommé ministre de la Défense. Depuis la chute de Bachar el-Assad, le 8 décembre dernier, un gouvernement de transition a été mis en place par la coalition des groupes rebelles islamistes qui ont fait basculer le régime. Toujours en Syrie, au sein de la société civile cette fois, des avocats réclament des élections libres du barreau. Ces derniers étaient soumis pendant des décennies à la répression de Bachar el-Assad. Une pétition en ligne a été lancée par les avocats. L'un des signataires a déclaré que les nouvelles autorités avaient nommé un nouveau conseil de l'ordre des avocats qui n'a aucune visibilité pour l'avenir, selon ses mots à l'AFP. À Gaza, le système de santé au bord de l'effondrement total, annonce de l'ONU. L'ONU qui juge vague les affirmations d'Israël concernant des groupes armés palestiniens qui utiliseraient des hôpitaux de Gaza. Les hôpitaux de Gaza qui sont devenus des pièges mortels, précise l'organisme. En Corée du Sud, je vous en parlais dans les titres, le deuil national se poursuit 2 jours après le drame aérien à l'aéroport de Muan, dans le sud-ouest du pays. Les enquêteurs tentent toujours d'identifier les causes exactes de l'accident. Une inspection d'urgence de toutes les opérations aériennes du pays a été ordonnée. Les autorités ont annoncé examiner la réglementation concernant le mur de béton en bout de piste, mur percuté par l'avion de la compagnie Jeju Air lors du crash qui a tué 179 passagers sur 181 personnes à bord. Des polémiques persistent autour du mur contre lequel s'est écrasé l'avion en fin de piste. On en parle avec Nicolas Roca.
Les images terrifiantes du crash de l'avion interrogent. Est-ce que certaines des 179 vies emportées dans la violente explosion du Boeing auraient pu être sauvées sans la présence d'une structure en béton dans la trajectoire de la piste de l'aéroport de Muan? L'avion a explosé contre un monticule qui accueille le système d'éclairage permettant aux pilotes de situer la fin de piste. Une installation étonnante, selon Jean Serra, ancien commandant de bord.
Je trouve ça assez choquant, personnellement, effectivement, d'avoir un obstacle qui soit dans la trouée qui se trouve après
l'axe de piste, j'avoue qu'effectivement, c'est tout sauf sécuritaire.
Mais est-ce que vous avez déjà vu ça ?
Non, et ça nous a tous interpellés en se disant, mais pourquoi ils ont fait d'abord un socle en béton ? Ils pouvaient très bien mettre les mêmes lampadaires fixés sur du béton en sous-sol. Les poteaux, ils auraient plié au passage de l'avion, mais certainement pas avoir un socle en béton qui dépasse comme ça à la surface de la Terre. Même s'il avait eu le train d'atterrissage, ça aurait effacé le train, donc ça aurait également causé des dégâts.
L'enquête se concentre également sur les possibles défaillances techniques de l'appareil. Le Boeing 737-800 a atterri sans ses trains d'atterrissage, mais aussi sans les volets d'atterrissage qui permettent de ralentir l'avion.
Nicolas Rocca, on reste en Corée du Sud. C'est une première dans le pays pour un chef d'État. Un mandat d'arrêt a été émis aujourd'hui contre le président destitué, Yoon Suk-yeol, lui qui jusqu'à présent a refusé de comparaître devant les enquêteurs. Ces derniers veulent l'interroger sur sa tentative ratée d'imposer la loi martiale début décembre. Son avocat estime que ce mandat d'arrêt est illégal. En Argentine, le président ultralibéral Javier Milei continue de passer le budget de l'État à la tronçonneuse, faute d'accord qu'il n'a jamais vraiment cherché à trouver au Parlement. Le président argentin a décidé de reconduire le budget de l'an passé à 2025, ce qui lui permet d'avoir la liberté d'approfondir à sa guise son plan de réduction drastique des dépenses publiques. À Buenos Aires, les précisions de Théo Conscience.
Javier Milei a annoncé la couleur. 2025 sera l'année de la Deep Motosierra, la tronçonneuse profonde. Après avoir réduit les dépenses publiques de près d'un tiers en 2024, le président ultralibéral compte bien continuer à réduire l'État argentin à sa portion congrue. Pour ce faire, il aura les mains libres. Le gouvernement a officialisé hier la décision de proroger, comme l'an passé, le budget de l'année 2023, le dernier à avoir été voté par le Parlement. Cela permettra à l'exécutif d'assigner et de réassigner les fonds de manière discrétionnaire sans que le Parlement ait son mot à dire. Javier Milei avait pourtant présenté en grande pompe un projet de budget déficit zéro pour l'année 2025 fin septembre, avant d'abandonner l'idée de le faire voter par le Parlement où son parti est ultra minoritaire. S'il a laissé la porte ouverte à une reprise des négociations en février, le président argentin n'a jamais vraiment cherché à trouver de compromis avec l'opposition de droite avec laquelle il a fait alliance au Congrès cette année. À la place, il a privilégié l'option de la prorogation du budget qui lui permet d'approfondir à sa guise son plan de réduction drastique des dépenses publiques en 2025. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Toujours en Argentine, la justice a inculpé 5 personnes dans le cadre de l'enquête sur la mort de Liam Payne, un ex-membre du groupe britannique des One Direction. Le chanteur est décédé après la chute depuis un balcon en octobre dernier. Parmi les 5 personnes inculpées, 2 d'entre elles sont en détention provisoire, a annoncé le parquet. Aux États-Unis, la justice condamne en appel Donald Trump pour agression sexuelle. Il doit payer 5 millions de dollars. Le président américain élu, qui sera investi dans 3 semaines, va devoir verser cette somme à une autrice qu'il avait agressée sexuellement dans les années 90. Il l'a également diffamée lorsqu'elle avait révélé les faits plus de 20 ans après. Environnement, pour finir ce journal, le Conseil d'État a confirmé hier en France la nécessité d'une fermeture de la pêche dans le golfe de Gascogne pendant 4 semaines au cours de l'hiver. L'objectif de cette mesure, mise en place du 22 janvier au 20 février 2024, est de protéger les dauphins de captures accidentelles par les bateaux de pêche. Elle sera reconduite en 2025 et 2026, les précisions de Pauline Glaise.
Les navires de plus de 8 mètres, exception faite de ceux qui pêchent à la ligne ou au casier, devront rester à quai pendant une période particulièrement sensible. C'est ce qu'explique Romain Écorchard de France Nature Environnement.
C'est des périodes où ils sont particulièrement actifs dans la même zone que celle où les pêcheurs sont également très actifs. Donc il y a énormément d'interactions entre les filets de pêche et les populations de dauphins et de marsouins.
Et le moratoire l'an dernier a été probant.
Le nombre de captures, il était d'environ 2000 cétacés, alors qu'on est habituellement entre 5 et 10 000.
Mais la profession réclame la publication des données de l'Observatoire des mammifères marins Pélagis, Johnny Wall du syndicat SINADEPA.
Comment peut-on stigmatiser toute une profession, interdire d'aller en mer et refuser de communiquer son travail sur lequel il se base pour dire que c'est de la faute des pêcheurs?
Et pour Serge Larsabal, président du comité régional des pêches maritimes de Nouvelle-Aquitaine, le moratoire n'est pas une solution.
La solution, c'est ce que les professionnels font depuis 6 ou 7 ans maintenant, en s'équipant d'un certain nombre de tests d'équipement, soit de moyens de mitigation, soit des caméras, et amener un certain nombre de données pour minimiser au maximum des prises.
De leur côté, France Nature Environnement et Johnny Wall jugent ces dispositifs d'effarouchement peu efficaces.
Pauline Glaise, à Mayotte, le Premier ministre français François Bayrou était en visite dans l'archipel hier avec quatre de ses ministres. Le chef du gouvernement a annoncé les mesures du plan appelé Mayotte debout. Parmi ces dernières, le rétablissement de l'électricité dans chaque foyer. François Bayrou a par ailleurs achevé son déplacement en assurant que Mayotte ne deviendrait pas, je cite, une île bidonville.